affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal Academy. Dans son dictionnaire des idées reçues, voilà ce que dit Flaubert de l'Académie française. La dénigrer, mais tâcher d'en faire partie si on peut. Dès sa création, en 1637, l'Académie, sans jamais cesser d'attiser l'envie, a été la cible des colibés et de railleries. Alors pour Dominique Fernandez, académicien lui-même, ces attaques sont un signe de vitalité. Qu'elle cesse, nous dit-il, et cela voudrait dire que l'Académie est morte. Dans un beau livre, sobrement intitulé « Académie française » paru aux éditions Philippe Ray, il retrace l'histoire de cette vieille institution en nous offrant des textes ciselés, mordants, sans concession aucune pour ce qu'on pourrait appeler l'académiquement correct, et l'on imagine que peut-être des dents ont grincé à sa lecture.
Elles ont grincé.
À ses côtés, le photographe Ferrante Ferranti, qui co-signe l'ouvrage, nous emmène, grâce à ses photos totalement inédites, là où le commun des mortels et peut-être même des immortels n'est jamais allé. De la salle des séances jusqu'au sommet de la coupole, en passant par les salons, les cabinets de lecture et de petits passages méconnus, qui nous révèle 1000 détails qui échapperaient sans doute aux yeux les plus avertis. C'est donc un privilège que nous avons aujourd'hui d'entrer en leur compagnie sous la coupole. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez écrit ensemble plus de nombreux ouvrages, plus de 20, je crois.
Oh, 25.
25, j'allais dire près de 30.
Oui, 30. On arrivera à 30.
On est, je crois, déjà à 30.
Peut-être.
Oui. Beaucoup, on les compte pas. Voilà.
Et vous étiez déjà venu à Canal Academy pour évoquer l'un de ces ouvrages qui s'appelait Sibérie, au pluriel. Et avec ce nouvel ouvrage, donc lui, consacré à l'Académie française, alors nous sommes très très loin de l'album consensuel, de l'hommage flagorneur, si on peut dire.
Oui.
Les textes sont absolument sans concession. Et contrairement aux beaux livres, à certains beaux livres en tout cas habituels, les photos ne sont pas simplement là pour accompagner, elles font vraiment partie intégrante de l'architecture du livre et elles ont un apport qui leur est propre. C'est-à-dire que c'est vraiment des photos qui ont un sens. Alors, ma première question, un peu naïve, mais qui fait une entrée en matière, c'est comment est né ce projet d'ouvrage ? Encore une fois, qui n'est peut-être pas une commande...
Ah, moi, je sais.
Ouais, c'est
parce que nous avons fait... Nous avons des liens très réguliers, très, très amicaux désormais avec notre éditeur, Philippe Ray, un de nos éditeurs. Et nous avons envisagé une collection, enfin c'était pas vraiment une collection, mais on a eu envie tout à coup de montrer des lieux dans lesquels les gens ne pouvaient pas pénétrer. Ça a commencé en Syrie, et nous sommes heureux et fiers aujourd'hui, compte tenu des circonstances politiques, d'avoir pu le faire. C'est une magnifique demeure qui est à Alep, et à la suite il y a eu un très étonnant palais à Beyrouth, le palais sur Soc, qui sont des lieux restés intacts et qui sont des lieux mythiques pour les gens qui les côtoient, enfin, ou qui ne peuvent pas rentrer. Alors vous allez me dire quel est le lien avec l'Académie française.
Et puis la Villa Médicis.
Et c'est le livre de la Villa Médicis qui a été le lien aussi. Donc tous les livres sont dans le même format, même esprit, dirons-nous. Et on s'est rendu compte qu'au fond, peut-être le plus emblématique de tous, c'est celui que Dominique Fernandez côtoie toutes les semaines, enfin, dont il fait partie, et que tout le monde, quand je disais que quand j'ai eu la chance de pouvoir assister à quelques cérémonies ici, et les gens me disaient toujours, mais quelle chance tu as d'y entrer. Et à partir de là, voilà, l'idée d'inviter, c'est une invitation à la découverte d'un lieu que tout le monde connaît de l'extérieur et qui fascine tout le monde, mais dans lequel on pense ne pas pouvoir entrer aussi facilement.
Oui, alors là, vous leur offrez finalement un laissez-passer, si je puis dire, à travers cet album. Alors peut-être peut-on revenir sur l'histoire de cette académie, Dominique Fernandez.
Oui, alors je vais tout de suite faire vous reprendre gentiment.
Immortel.
Voilà.
Je le sais.
Parce que c'est pas nous qui sommes immortels.
C'est la langue.
Mais... On reçoit une médaille quand on est élu à l'immortalité de la langue française. Richelieu a créé ça pas du tout pour les bons hommes qui y sont, c'est pour la langue française. C'est très important parce que c'est ça le fondement de l'académie, c'est la langue. C'est ça qui est passionnant, le dictionnaire, tout ça.
Absolument. Voilà. Je savais que vous alliez me le dire, mais le mot était trop facile. Donc, je suis essayé. Donc, justement, Richelieu, 1637, pouvez-vous nous raconter un peu comment est né...
Il y avait une académie privée, il y avait Conrart, il s'appelait, qui était un lettré de l'époque, qui réunissait chez lui les lettrés de l'époque, des gens plus connus, des poètes, des érudits. Et Richelieu a eu vent de ça, et comme il voulait tout régenter l'État et construire la France... Il s'est dit, il faut les prendre sous ma coupe. Comme ça, d'abord, je peux les contrôler. Et en même temps, donc, il les a contrôlés. Mais en même temps, il a redonné le statut d'État. Et là, c'est pour ça que la France est le seul pays au monde, je crois, où les écrivains un peu moins maintenant, parce que tout s'en va, comme on dit. Mais enfin, on tue un statut d'État, sur des personnages d'État. Et c'est reconnu, la littérature française, c'est la République des Lettres, disait Thiboudet, et c'est grâce à Richelieu, parce que en faisant cette académie, et sous sa coupe, il les a sortis du privé, du cabinet privé, pour les mettre dans une institution d'État.
D'accord, et public. Alors, elle a failli, vous expliquez dans ce livre, donc Académie française, qu'on a cherché un peu comment l'appeler. Finalement, on est arrivé à quelque chose de très très simple, Académie française. Oui. Vous expliquez qu'elle a failli s'appeler l'Académie des beaux esprits et tout un tas d'autres noms un petit peu.
À l'époque, c'était comme ça. En Italie, c'était pire. Il y avait l'Académie des humides, il y avait l'Académie de je ne sais plus quoi. Ça fleurissait des petites académies comme ça.
Ah oui. Et l'Académie française. Avec des noms un peu empoulés.
Oui.
Alors, vous parlez également des premiers académiciens qui ne sont pas du tout ce qu'on imagine. C'est-à-dire, vous parlez d'un Armand de Coilin, élu à 17 ans,
oui,
alors qu'il
s'est 16 ans et demi, sur mon fauteuil, si je puis dire. Enfin, non, mais les premières fois...
Et qu'il savait à peine lire, dites-vous.
Mais, sans doute pas du tout, même. Mais vous savez, au début, il n'y avait pas d'élection, parce qu'il n'y avait rien. Donc c'était le roi qui nommait les fils de ses amis ou les filles de ses amis. Et alors, le duc de Coilin, après, il restait très longtemps, et puis son frère et ses fils aussi. Autrefois, il y avait énormément de ducs, il y avait même une partie des ducs. Tout ça a disparu, heureusement.
Oui. Et alors, vous parlez également d'un point de vue social, une certaine diversité, puisque que l'on peut commencer à trouver aujourd'hui, qui n'a peut-être pas été le cas pendant toutes les trois siècles d'existence, mais avec un fils de boulanger, l'a dit.
Oui, oui. Le principe, c'est d'Alembert qui l'a formulé, ce qu'on appelle l'égalité académique, c'est-à-dire que tout le monde, en principe, il y avait surtout des ducs, des archevêques, tout ça, mais il y avait aussi des gens, des fils artisans, ils étaient tous traités, c'était tous monsieur, on s'appelle tous monsieur, il n'y a pas de...
Mais ils avaient déjà une vocation d'écrivain, alors, ces gens?
Non, mais Richelieu ne voulait pas seulement des écrivains, il voulait les grands corps sociaux, les grands corps de la société. Alors, il y avait les écrivains, il y avait les prélats, c'était la moitié du corps, c'était les prélats, jusqu'à la Révolution. Les ducs, enfin, les nobles, mais il y avait aussi des juristes, des historiens, et des militaires.
Hein. Oui.
Il n'y en aura plus parce qu'on a mis tous les maréchaux, mais il n'y aura plus jamais de maréchaux. Alors donc, c'est fini.
Oui, puisque pour être maréchal, il faut commander au feu. Hein, c'est ça.
Il faut commander en chef devant l'ennemi. Comme il n'y a plus de front maintenant, c'est pas en appuyant sur un bouton.
C'est certain. Donc on est quand même déjà, dès l'origine, on est assez loin d'un univers coupé du monde. Alors, parce qu'on a eu cette image un peu fausse finalement.
Oui, non, c'était les grands. Enfin, il n'y avait pas d'ouvriers, de paysans, évidemment. Mais enfin, il y avait les grands corps de l'État. Les grandes représentations. Et c'était un espèce de salon. Et alors, c'est très intéressant parce que dans le travail, on va en parler, c'est qu'on a des compétences très diverses. Il y a des médecins, des juristes, des historiens, des philosophes, tout ça. Et donc, chacun apporte son savoir.
Oui, vous l'expliquez, ça, avec une certaine verve. D'ailleurs, tout le monde a l'air d'être une ambiance assez joyeuse, d'après ce que vous écrivez.
Ah, on s'amuse beaucoup, c'est ça, moi, j'ai découvert. Parce que du dehors, on croit que c'est un truc rasoir, avec des habits, des épées. Moi, j'aime pas beaucoup ce genre-là, ça m'intéresse pas beaucoup. Mais il y a que ça que le public connaît. Hein. Il connaît que cet aspect. Il connaît pas le travail qu'on fait sur la langue française et les prix, tout ça. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant.
Oui, tout à fait. Alors ça, on y reviendra justement pour parler de l'Académie aujourd'hui. Dès le départ, donc vous montrez que Richelieu a créé cette Académie dans un but un petit peu de contrôle.
Oui,
et l'Académie a tout de suite des rapports compliqués avec le pouvoir. Hein. On peut l'illustrer peut-être par cette affaire en 1683 avec la succession de Colbert, qui oppose Boileau, le favori de Louis XIV, à La Fontaine.
La Fontaine qui était élu.
Qui n'est pas le favori.
Et Louis XIV n'a pas donné son aval, donc on l'a repoussé, on a attendu d'élire les deux à la fois.
Oui.
Alors.
Il y a quand même à la fois un geste d'indépendance de la part de l'Académie, et puis ensuite un petit geste une concession faite à Louis XIV.
Non, c'est que le chef d'État, encore aujourd'hui, il a deux droits régaliens, c'est le droit de grâce. Et adouber l'académicien. Si on n'est pas reçu par le chef d'État, on ne veut pas être académicien. Et de Gaulle a refusé deux fois Saint-Jean de Perse, qui n'était pas assez gaulliste, et Paul Morand, qui n'était pas du tout. Il a dit « je ne les recevrai pas ». Donc on ne les a pas élus parce que ça ne servait à rien.
Ah d'accord, oui. Et ouais. ça continue aujourd'hui, alors oui
Mais non. C'est-à-dire, si un cas de litigieux, on prévient d'abord le chef de l'État, et on lui dit... D'habitude, il ne dit rien du tout, il s'en fiche, mais de Gaulle, vous savez. Hein.
Oui,
Morand, il avait des raisons, quand même. Hein.
Oui, oui.
Surtout quand on lit ses correspondances aujourd'hui, c'est quand même...
Que vous citez, d'ailleurs, oui.
C'est une saloperie. Non, mais il n'y avait pas la correspondance avec Chardonne. C'est horrible. Ouais. C'est honteux.
Et la version publiée a été expurgée, si j'ai bien suivi. Hein.
Je crois que c'est un des deux qui dit... Cet écrivain est revenu de Buchenwald, il n'y a pas appris la concentration. Non, c'est ignoble, c'est vraiment ignoble. Je crois que c'est Paul Morand. Oui. Antisémite, homophobe, raciste, non, voilà. Bon, un grand écrivain, hein.
Oui.
Pas Chardon, moi, ça, je trouve pas. Chardon, il est rasoir comme tout, mais... De toute façon, il n'était pas à l'Académie. Mais...
Donc, nous sommes sauvés. Voilà. Alors, pouvez-vous nous raconter un peu encore d'autres rapports un peu complexes comme ça entre le pouvoir et l'Académie?
Napoléon.
Oui.
Napoléon et Chateaubriand. Il a refusé... Napoléon n'a pas eu le droit de faire son discours sur la coupole, parce que c'était ennemi de Napoléon. Et puis de Gaulle, quoi.
Oui, oui. Voilà. De Gaulle. Et il y a eu aussi la période de l'occupation, où là encore l'Académie a un rôle un petit peu...
Bah, là, ils n'ont pas été très... Il y a eu quatre...
Pas très résistants.
Quatre qui ont été, évacués. Oui. Mais quand même, Valéry était très bien. Hein. Oui. Il a prononcé le discours de funèbre de Bergson. Mm-hmm. Alors, les Allemands avaient interdit, quand il est mort en 1941. Valéry était bien. Duhamel était très bien. Non, il y a eu des gens bien, mais il y a eu les quatre fameux,
oui.
Pétain et...
Notamment Charles Maurras.
Maurras,
oui.
Abel Hermant et Abel
Bonnard. Abel Bonnard, oui. Un peu secondaire, quand même.
Oui, enfin, c'est... Là, ils ont été radiés, ce qui est rarissime. Hein.
Oui. En fait, je pensais même que seule la période de l'occupation avait procédé à des radiations, mais vous m'avez appris dans l'Académie française, donc paru chez Philippe Ray, que Furetière avait été...
Ben oui, il avait fait un contre-dictionnaire. Il trouvait qu'il n'y avait pas assez de mots de métier. Avec les dictionnaires à part, ben, je dis, écoutez, monsieur, alors hop.
Allez le faire tout seul, voilà.
Ben, on ne peut pas démissionner, sinon. Oui. Hein.
Ah, on ne démissionne pas de l'Académie?
On ne peut pas.
D'accord. Cela dit, qui voudrait démissionner de l'Académie?
Si, si, il y a eu des cas. Pierre-Emmanuel Comarceau a été élu, qui était jugé à tort de droite. Il a démissionné, mais on ne peut pas. Et Julien Green aussi a démissionné. Ben, ils ne viennent plus, mais on ne les remplace pas. On ne peut pas.
D'accord. Alors, vous n'épargnez personne dans ce livre. Hein. Vous parlez de Sully Prudhomme, vous le traitez de minable.
Bah, écoutez, minable.
Et même votre père, vous ne l'épargnez pas beaucoup. Hein. C'est, vous avez des mots assez tranchés.
Je dis les choses comme elles sont. Mais Sully Prudhomme, c'est minable. Le seul verre dont on s'appelle, c'est « Ne touchez pas ce verre, il est fêlé ». C'est tout.
C'est vrai.
Premier prix Nobel, c'est comme une ouïe. Hein. Et justement, l'Académie suédoise avait consulté l'Académie française parce qu'elle voulait le donner à Zola. Et comme le français a dit, mais mon Dieu, ce voyou, cette brute, qui parle des prostituées, de l'alcool. Alors, ça. Après, vous le donnez à Tolstoï, même réaction, Tolstoï était excommunié, ça était affreux, alors donc il le donnait à Sully Prudhomme.
D'accord. Zola, 12 tentatives, c'est bien cela?
17.
17? Ah oui.
Alors, les premières, c'est pour être élu,
oui.
Et les dernières, c'est pour montrer à quel point ils étaient des vieux cons. Pardon, excuse-moi.
C'est français, donc ça va.
Il avait entre 0 et 3 voix. Non, mais après, c'était la politique, évidemment.
Oui.
L'affaire Dreyfus, ils étaient tous anti-Dreyfusard, évidemment.
Oui, donc ça a joué un rôle aussi. Donc finalement, la politique s'invite...
Hein, c'est pas l'avant-garde, l'Académie. Hein.
Oui. Alors, vous avez aussi critiqué, il y a un autre chapitre que vous appelez « Échantillon de nullité ».
Ah bah oui, ça, il y en a beaucoup.
Alors pouvez-vous nous en
parler? Non, justement, ils sont tellement nuls.
Ils sont tellement nuls qu'on
n'en
parle plus.
Il y a eu des centaines depuis le début. Oui. Au XIXe siècle, il y a les romantiques, Mérimée, de Taine, Sainte-Beuve, tous les autres, on ne sait plus. Comme Balzac se présente, vous connaissez la lettre extraordinaire, Balzac se présente, il y avait Hugo et le vicomte de Noailles. Et Balzac écrit au vicomte de Noailles, « Monsieur le vicomte, vous êtes sans doute un meilleur écrivain que moi, mais je suis un plus grand seigneur que vous, parce que quand Hugo se présente, on s'efface. » Balzac s'est effacé, et le vicomte a été élu contre Hugo. Hulot à la cinquième fois.
Oui, cinquième fois. Oui.
Enfin, à 38 ans à l'époque.
Oui, parce que c'est quand même très très jeune.
Oui. Mais, non, Balzac, c'est la honte de l'Académie, il a eu deux voix après. Il s'est représenté, il y a eu Hugo et Vigny. C'est effrayant. Enfin,
combien de ratages de ce genre on peut
écoutez, les grands ratages...
Parmi les grands,
Non, il y a eu... C'est Balzac, Dumas, Théophile Gautier, Zola...
Oui. Alors Dumas parce que c'était quoi? Trop populaire?
Oui, et quand ils ont élu Dumas fils, c'est de nullité, et Hugo a dit que j'ai voté pour le père.
Oh, c'est joli. Ça rattrape.
Non, il y a des gens qui ne se présentent pas, hein, ça n'intéresse pas.
Oui, bien sûr. Très bien. Mais il y a quand même des grandes pointures qui se présentent et qui...
Voilà. Et Baudelaire...
Ça évoque le Goncourt, d'ailleurs.
Baudelaire a envoyé ses deux candidatures. On lui dit, mon pauvre ami, tu auras 0 voix ou 2 voix, donc il a retiré. Il aurait été...
Vous pensez qu'il aurait été ratiboisé?
Oh, pff, ah oui. Baudelaire, les épaves...
Trop
neuf,
enfin trop novateur. Enfin,
non, mais même moralement.
Oui, c'est vrai que la morale joue aussi.
La morale, ça n'a pas beaucoup changé. Hein.
C'est vrai, ah oui. Pourtant, ça s'ouvre un peu, nous, on a l'impression. C'est plus,
ils sont homophobes, ils sont...
Ah oui.
Ah oui? Ah oui. Ils n'osent pas le dire, parce qu'on n'ose plus, mais ça se sent.
Bon. D'accord. Ferrante Verdi, vous vouliez intervenir?
Ah non, pas du tout. Ah bon. Je suis déjà au courant de tous ces propos.
Enfin, non, mais je dis dans le livre que c'est homophobe.
Oui, oui. Alors, oui. Vous nous apprenez aussi, à part l'homophobie, donc, que, alors ça je l'ai appris, que l'éloge du prédécesseur n'est pas obligatoire. Alors, non, je pensais qu'il était obligatoire.
Mais il y avait une tradition.
Et vous démontrez que ce n'est pas le cas du tout.
Y avait, bah, vous savez, quand Valéry a succédé à l'Anatole France, comme il détestait l'Anatole France, parce que France avait fait une anthologie de la poésie française dont il avait exclu Mallarmé, qui était le dieu de Valéry. Donc Valéry n'a pas prononcé son nom. Il a dit à un moment simplement « cet écrivain qui a emprunté le nom de son pays ». C'est tout. C'est un pseudonyme, France. Oui. Ça plus, je peux comment. Et non, et Paulhan aussi, qui a succédé à Pierre Benoît, c'est pas le même genre, il s'est arrangé par une autre chose. D'accord. Enfin, c'est rare ici.
C'est rare, oui. C'est rare. D'accord. Vous-même avez dû faire l'éloge de...
Jean Bernard, c'est formidable. C'est un grand médecin que je ne connaissais pas du tout. C'est un grand esprit, ça m'a beaucoup appris, moi. J'étais ravi, ça.
Mais vous nous en parlez un peu, parce que les auditeurs de Canal Académie ne le connaissent pas forcément.
Jean Bernard, c'est un type extraordinaire. C'est le premier qui ait guéri la leucémie des enfants. Et après la guerre, donc cette guerre-ci, personne ne voulait ce service parce qu'il y avait 100% d'échecs. C'est-à-dire les enfants mouraient. Et c'est le premier, il n'a pas fait de découverte, mais il a eu l'idée de transfuser le sang, un peu, puis beaucoup. Il y a eu des rémissions, et puis maintenant, 80% de guérison.
Ah oui, donc c'est quand même un personnage central.
Et en plus, il paraît qu'il avait il allait dans les hôpitaux, il parlait aussi bien à la femme de ménage qu'au duc, s'il y en avait. Enfin, oui. Il paraît que c'est un grand. Et puis il a écrit des livres, même des romans. Que j'ai lu, qui sont pas mal du tout. Mais surtout, il avait une pratique de la médecine humaine, c'était un grand humaniste. Les gens, moi, je ne l'ai pas connu, mais les gens l'adoraient ici. Hein.
D'accord.
Il venait à pied, il avait 100 ans, il venait encore du Luxembourg à pied, il paraît.
Ah oui, c'est un grand personnage.
Il refusait, on voulait le raccompagner en voiture, il disait non, non, non.
On pouvait lui confier sa santé. Donc.
Non, c'était un grand bonhomme, Jean Bernard. Hein. C'est grand médecin humaniste, comme il y a de moins en moins, parce que maintenant, ils sont très techniciens, très.
C'est sûr, oui, oui. Et puis acharné au rendement, finalement. Oui. Alors que. On vivait peut-être à une époque où le rendement était moins...
Et puis il a été aussi... Il a fait de la résistance. Hein, il était en prison par la Gestapo. Et il a écrit des vers. Et il se récitait des vers, il dit, pour supporter la prison.
D'accord.
Non, c'est un grand bonhomme.
Alors, en parlant de moins grand bonhomme, peut-être, vous évoquez également dans ce livre, donc Académie française, co-signé avec Ferrante Ferranti, paru aux éditions Philippe Ray, vous évoquez beaucoup de rumeurs et de préjugés qui courent sur l'Académie. Alors, certaines apparemment sont exactes, notamment, donc vous évoquez l'homophobie. Vous parlez également de xénophobie, de misogynie, d'antisémitisme, mais à contrario, qui serait un peu la deuxième phase d'une même bêtise, un philosémitisme outrancier. Vous évoquez tout ça.
Tout ça, oui, oui.
Quelques exemples concret, sur la misogynie par exemple.
Bah d'abord, la lenteur, le retard pour admettre des femmes quand même, alors que c'est, dans les statuts, c'était pas prévu. Même de Sévigny a failli être élu, il paraît, même de Georges Sand, il y avait une campagne, je sais pas pourquoi ça a raté.
Ah, il n'était pas prévu que ça soit fermé aux femmes.
Non, non, il y a des statuts inamovibles, mais il n'y a pas de statut concernant les femmes.
D'accord. Alors pourquoi? Parce qu'on n'y avait pas pensé tellement c'était évident qu'elle n'avait pas leur place.
C'est une société masculine dominée totalement par les. C'est Yourcenar la première en 1980 quand même. C'est pas très.
Oui, c'est.
Il y en avait une autre avant.
C'est vrai qu'on prend son temps là.
Mais je crois que les femmes n'y pensaient pas parce que c'était comme il n'y avait pas de ministre femme non plus. Je veux dire,
oui,
il y avait pas
oui, c'était. Oui. Alors vous montrez dans ce livre que les femmes a joué un rôle. Par d'autres biais, finalement, c'est-à-dire par les salons.
Oui, alors il y a une chose qui a disparu, heureusement. Oui. Avant la guerre, je vois bien, les élections se faisaient dans les salons. Il y avait 4 ou 5 dames, Mme de Noailles et Mme je ne sais plus quoi. Et on voit Mauriac, par exemple, on fréquentait ces salons, on rencontrait les candidats, rencontrait les académiciens, on prenait connaissance. Ça, c'est complètement disparu. Maintenant on joue sur pièce.
Oui.
Alors, sur amitié, quoi.
Ou sur amitié. Oui, alors parce que j'allais dire, est-ce que d'autres normes n'ont pas remplacé les anciennes normes pour une élection?
Non, les choses, il y a des progrès. Les visites ont pratiquement disparu.
Oui. Ah oui, ça avait été dénoncé d'ailleurs par Janco dans le candidat, je crois, qui était un pamphlet assez cinglant et assez.
Il était recalé.
C'est vrai.
Les pamphlets d'Hercalé, moi, j'y crois pas. On a le droit de faire un pamphlet quand on est dedans, si on a envie, enfin, je veux dire. Mais ça sent trop le règlement de compte.
Oui.
Non, il y a moins visite.
Vous avez vécu, pardon, excusez-moi, cette candidature de Janco ou...
Non,
vous n'étiez pas encore élu.
Oh, ben non,
c'était quand?
Il y a 50 ans.
Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Son livre est sorti plus récemment, mais c'est vrai que ça remonte à très longtemps.
Oui, non. Et il y a plus de visites, il y a plus de salons. J'ai l'impression maintenant qu'on juge sur les œuvres.
Oui.
Sur, si on a élu un ministre, évidemment, s'il y a Escalité, même Simone Veil, c'est pas sous ses livres, évidemment. Mais quand c'est un écrivain, on lit ses livres et puis on se fait son opinion. On n'a pas besoin de... Puis moi je refuse les visites. Hein, quand on est obligé d'écrire une lettre pour proposer sa visite. Oui. Je trouve ça humiliant pour les deux parties. Oui. C'est des gens de notre âge, des gens vénérables qui ont une œuvre, et ils sont en position de candidat au bac. Vous voyez, c'est pas possible.
C'est assez humiliant. Et c'est même dégradant, je veux dire, pour l'institution en elle-même.
Oui, je trouve que c'est... Moi, je refuse absolument. Ouais.
Et comment cela se passait-il avant? C'est-à-dire que des gens étaient reçus et faisaient un peu la cour à un membre de l'Académie pour obtenir sa voix, c'est cela?
Non, mais la visite, c'était... on m'écrit, je suis prêt à vous voir. Oui. Alors donc, vous dites oui, si vous dites oui. Le type vient, vous parlez de quelque chose pendant une heure. Moi, j'ai fait 6 visites, je me rappelle. 2 étaient justifiées. Oui. Et 4 autres étaient des formalistes, comme ça.
Oui, d'accord. Et ensuite, la personne se fait un avis sur vous et tranche si vous avez votre place ou non.
C'est son avis, je suppose. Oui, je sais pas, moi, je refuse absolument ça.
Je crois que vous avez raison. Voilà. C'est pour vous et pour le candidat, d'ailleurs.
Oui.
Alors, vous, tout au long du livre, en fait, hein, on voit que l'Académie change petit à petit. Vous parliez de 1980 pour la première femme élue, mais malgré tout, on note des changements réguliers. Pouvez-vous nous raconter un peu ces changements dans les habitudes des membres de l'Académie? Vous évoquez, par exemple, les origines sociales, le rôle des épouses, apparemment, qui avait une importance.
Épouses, effrayant, jadis. Les épouses. Elles faisaient les élections, souvent, les épouses.
Alors, ça veut dire comment?
Eh bien, parce que je sais pas, le candidat plaisait aux épouses. Enfin, je sais pas, mais c'est connu, c'est les épouses. Oui. Donc, il y a de moins en moins d'épouses, heureusement.
Elles se retrouvaient dans les salons, peut-être, non?
Oui, aussi.
Oui, c'est ensemble.
Non, et socialement, c'était quand même
cette
très...
influence féminine.
Regardez les adresses des académiciens, c'est 5, 6e et 16e.
Oui, et maintenant, c'est plus... plus diversifié.
Moi, je suis le 9e. Oui. Orsena, c'est le 14e. Vous voyez, la gauche est plus périphérique.
D'accord.
Mais la droite, le bastion central, est quand même très...
Plus conservateur et plus
très,
plus
conservateur. Et donc, socialement, il y a quand même des gens très différents. Maintenant, il y a des professeurs, des gens qui ne sont pas du tout des... Ça a changé.
Ça a changé,
Ça a changé. Et puis, l'ouverture surtout à ce qu'on appelle la francophonie, quand même.
Oui, c'est exact.
L'élection de la Ferrière, haïtien, de Malouf, libanais, etc. Qui sont...
Et même, je ne sais pas s'il y en a à l'Académie française, mais je crois qu'il y a des cinéastes également qui sont accueillis maintenant.
Non, il n'y en a plus. Depuis René Clair, il n'y en a plus.
Ah oui, c'est vrai. Non, ils sont à l'Académie.
Beaux-Arts.
Oui, non, c'est
ça, moi, je voudrais un cinéaste, à condition qu'il écrive quelque chose, mais on n'en trouve pas.
D'accord. Alors, avant de passer à la partie architecture, photographie...
Qui est passionnante.
Absolument. Et nous allons y venir. ce sera la deuxième
partie. J'ai découvert, vous savez, que les gens... Le secrétaire général m'a dit... Je ne connaissais pas. Il n'était jamais monté sur le toit. Ouais. Parce que Ferrand, il rampe sur les corniches.
Oui, il y a des photos vertigineuses.
Il escalade les choses.
On va voir ça.
Et personne n'avait jamais fait. Alors, c'est un des plus beaux bâtiments de...
De Paris, tout à fait. Parlé. Alors, dernière question, pouvez-vous nous parler un peu du quotidien de l'Académie, et notamment ces fameuses séances où l'on élabore le dictionnaire?
Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est le jeudi matin, pendant 3 heures, les volontaires, on est 6 permanents, pratiquement, quelquefois 8, on fait le dictionnaire qui se fait sans arrêt, on prend la lettre R maintenant, on va finir la 9e édition. Mmh. Après, on va recommencer, parce que la langue bouge, c'est inouï, la langue bouge et les gens se moquent de nous parce que c'est très lent, mais quelquefois on passe un quart d'heure sur un mot. Parce que c'est les mœurs, c'est l'histoire. Pensez que le mot femme, en la première édition, 1694, pour 60 ans à peu près, pour faire un dictionnaire. La première définition, c'était femme, femelle de l'homme, en 1694. En 1935, c'était femme, compagne de l'homme. Vous voyez, c'est toujours
c'est
par rapport à l'homme.
Centré,
Dans la prochaine édition, ce sera évidemment. Je sais pas, personne humaine, je sais pas quoi.
Oui, quelque chose de moins, moins appendice de son
compagnon. Et puis on va changer, évidemment, le mot mariage va être défini autrement. Et puis l'histoire. C'est passionnant, la langue reflète l'histoire du pays, quoi.
Oui. Et donc, le rôle de l'académicien, si l'on peut dire, c'est de retransmettre par écrit cette évolution de la langue, c'est cela?
C'est de
montrer les évolutions sociologiques.
Oui, parce qu'il faut... On nous propose... Il y a deux grammairiennes formidables qui nous proposent des choses, et là, on fait ce qu'on veut dedans, on ajoute, on retire. Donc, il faut définir les mots et faire des exemples. On n'a pas le droit de citer, ça, c'est dans les statuts. On ne veut pas citer La Fontaine ou Racine, il faut créer des exemples. Et c'est passionnant. Moi, j'apprends ma langue tous les jeudis, des choses que je savais d'instinct, mais oui. On m'explique, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui explique. Il y a un médecin, il y a un historien, il y a un philosophe. Donc chacun apporte son savoir. C'est passionnant, moi.
Sur quel mot travaillez-vous en ce moment ?
On était à R, j'étais absent là 2 semaines, mais on était à remplacé par là. Donc on va finir dans 1 an. Il y a eu 3 volumes parus, mm-hmm. Et après il faudra recommencer.
Après il faut recommencer forcément, puisque à nouveau la langue évolue.
Puis la langue des jeunes, mot on peut... Et puis il y a 40 000 nouveaux de technologies qui demandent à entrer.
Ah oui, c'est considérable.
C'est l'informatique, le nucléaire, le spatial, le machin, tout ça. Ouais. Alors il faut savoir lesquels... Les anglicismes, lesquels sont acceptables, les autres pas.
Alors, il y a une rubrique, d'ailleurs, qui est maintenant disponible sur Internet.
Dire et ne pas dire.
Ah,
c'est passionnant.
Oui, alors notamment, il y a une lutte raisonnable contre le franglais, contre le
globalisme. Oui, parce que booster... il y a des mots qui sont des notions anglo-saxonnes, mais booster, c'est encourager.
Oui.
Et l'autre jour, j'ai entendu ça à la radio, les footballeurs sont mis au repos pour soulager leur pressing.
Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Oui,
leur pression.
Ah, leur pression. Ah oui, d'accord.
Oui, alors, pressing est acclimaté en tant que pour laver son linge, mais pas le pressing.
Oui. Ça ne veut plus rien dire.
Voilà.
Oui, j'ai connu un informaticien.
Dire par nier, on va faire. J'espère que vous nous inviterez de nouveau.
Ah ben, je veux bien.
Avec le professeur Pouliquen, on va le publier chez Philippe Rey aussi.
Ah, très bien.
Pas tout, mais un choix, expliquer ce que c'est.
Oui, parce
que c'est passionnant.
C'est passionnant, oui.
Parce qu'à gauche, on met les expressions fautives. Et à droite, mm-hmm. Ce qu'il faudrait dire.
Ah, ça, c'est remarquable. C'est même un cadeau pour les familles, pour les enfants.
Et les internautes interviennent. Ouais. Hein, ils nous proposent. C'est très, très cool. Oui. C'est très suivi.
D'accord. Et c'est fait... Comment jugez-vous l'avis des internautes ? C'est-à-dire
on les examine.
Ah oui ?
Mais un exemple très simple. Le verbe « démarrer » est intransitif en français.
Oui.
Hein, l'auto démarre. Mm-hmm. On ne dit pas « je démarre mon auto » comme on entend. Ça, c'est une faute de français. Donc, voilà. Et puis, il y a 1000 exemples comme ça.
Oui. Alors ça, effectivement, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir parce que c'est extrêmement formateur.
Ça va être publié en septembre.
Ah bah c'est très rapide.
Voilà.
Bon, écoutez, rendez-vous en septembre.
Ou octobre, je crois, septembre, oui.
Alors je me tourne maintenant vers Ferrante. Donc vous avez été un des maîtres d'œuvre de cet ouvrage. Donc je rappelle son titre, Académie française, publié donc avec Dominique Fernandez de l'Académie française aux éditions Philippe Rey. Alors, comme je le disais en introduction, il est rare de voir un beau livre où les photos ont un authentique rôle. C'est-à-dire qu'encore une fois, les photos généralement accompagnent un texte de manière plus ou moins pertinente. Là, on sent que c'est vraiment la moitié de l'architecture de l'ouvrage. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de la manière dont vous avez travaillé, comment avez-vous procédé au premier repérage, aux premières prises de vue, et comment est-ce que cela s'inscrit dans votre œuvre générale ? Parce que c'est quand même un gros jalon, j'ai l'impression. Non, l'Académie française, ça a son importance
si
dans une œuvre.
Oui, surtout si on l'inscrit dans la lignée, dans la continuité des autres livres. Ce qui m'intéressait, c'est d'abord, c'est un défi énorme, parce que quand l'éditeur a eu cette idée, comme on l'évoquait en début d'émission, moi j'ai pensé que c'était tout l'Institut de France. Il n'avait pas mesuré qu'il voulait un livre uniquement sur l'Académie française. Or, évidemment, la confusion est... Il y a le collège. Enfin, à l'origine, c'est un collège, hein, l'Académie française, enfin, l'Institut de France. Donc, il y a beaucoup de salles que j'avais visitées. Bon, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai mis je suis entré pour la première fois. J'ai eu beaucoup de chance pour la réception par Madame de Romilly de Hector Bianchotti, il y a très longtemps. Et c'était très émouvant pour moi, d'abord, parce que j'admirais beaucoup Hector Bianchotti, mais aussi de voir la dignité. Et justement, et la dignité, là, cette dame, cette personne merveilleuse qui ne voyait presque plus rien et qui a dit son discours par cœur, ça restera un des grands, grands moments de ma vie. Donc, si vous voulez, la rencontre s'est faite, elle s'est scellée par la rencontre de l'intelligence, de l'esprit, de la vraie littérature. Et donc, pour moi, l'Académie restait... il fallait traduire, au fond, aussi cette image du lieu. Et quand il m'a dit qu'il y avait finalement très peu de lieux qui pouvaient correspondre, j'ai eu un peu peur, parce qu'on ne fait pas un livre entier sur ça. Mais ça a peut-être été une des clés pour l'approche du livre. Donc le livre, vous le lisez avec évidemment tous les propos historiques, mais aussi très personnels de Dominique Fernandez. Mais j'ai eu envie qu'on aborde pour la première fois vraiment ça de l'extérieur vers l'intérieur. Ne pas entrer tout de suite sous la coupole, comprendre qu'il y a tout un cheminement. Et alors, moi, il y a deux choses. Je crois qu'il y a avant tout le désir de restituer une des plus belles architectures de France, mais voire même européenne, tant l'élégance, le classicisme. On ne parle jamais de, on ne parle pour un peu comme la littérature française, mais pour l'architecture française, on ne parle que du classicisme. Certes, c'est un édifice classique, mais c'est un édifice marqué aussi profondément par les influences italiennes. Et le déclic, le point de rencontre entre finalement l'image que j'en avais et la réalité, s'est faite très précisément le jour où je me suis mis à étudier en détail les impressions de la coupole et de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que quand vous la voyez l'extérieur, elle est pour tout le monde, elle est circulaire, c'est très net. Et donc je ne voulais pas, en plus, nous allons y revenir, on peut d'ailleurs commencer par ça, puisque c'est la couverture. C'est-à-dire qu'évidemment, l'éditeur, au départ, a dit, mais la coupole, c'est la coupole, il faut montrer un livre avec la coupole. Il dit, mais il peut y en avoir des centaines. Et justement, si on montre la coupole, c'est ce que tout le monde voit. Il faut révéler l'esprit du lieu. Et l'esprit du lieu, comme dans tous les livres que je fais, mais aussi dans je crois, une réelle recherche photographique d'écriture de lumière, il fallait écrire avec la lumière et l'espace. Et donc, j'ai choisi, en couverture, d'illustrer ce point de jonction, où il y a tout un vertige très borrominien. Et donc, en fait, quand vous la voyez à l'extérieur, elle est circulaire, et à l'intérieur, elle est ovale. Donc, vous ne comprenez pas le lien. Or, dans la photo que je mets en couverture, qui n'est pas un artifice, au contraire, c'est que je donne l'illusion qu'il y a deux coupoles.
Oui, c'est
certes,
dire, on en voit deux.
Il y a une coupole et un lanternon, ce qui est tout à fait... Enfin, il y a le lanternon et la coupole, mais il y a une toute petite coupole à côté, que l'on voit très bien de l'extérieur, mais qui, avec le jeu d'échelle, comme elle est beaucoup moins imposante, donne le sentiment que c'est la vraie coupole. Et c'est à partir de là que j'ai dit que c'était un édifice complexe, au sens premier du terme, et qu'il fallait chercher à restituer la complexité de ce lieu. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les dédales, etc. Mais, vous savez qu'on est tout entré, les toits. Et donc, on entre dans la coupole, ce qu'on appelle la coupole, qui est en fait le lieu même de réception. Seul le président de la République et des très hauts, enfin, le pape est entré aussi, je crois.
En tant que chef d'État.
Voilà, en tant que chef d'État, pas en tant que chef religieux. Donc, évidemment, les gens imaginent qu'on rentre dans la coupole comme ça, par la grande porte, par le parvis. Or, dans le cas donc de cette coupole, quand vous êtes au cœur même de l'édifice, c'est frappant de voir que c'est un arc qui délimite ces deux espaces. Et l'architecte donc a eu cette idée merveilleuse de partir en effet du cercle, et ça se voit très nettement avec les fenêtres. Les fenêtres sont très très resserrées vers l'extérieur, j'entends vers la Seine et vers la cour du Collège de France, mais en revanche, d'Institut de France, pardon, et des deux autres côtés, ce sont deux ellipses qui se croisent. Donc voilà une idée qu'il fallait mettre en valeur pour qu'elle reflète profondément l'inventivité et l'élégance, le raffinement. Et la deuxième, c'est donc ce cheminement avec des lieux qui ne font pas partie véritablement de l'Académie française, voire même des lieux moins intéressants. Par exemple, le jour où M. Fernandez m'a amené à la salle du dictionnaire, ça n'a aucun intérêt de montrer ça. C'est une salle de travail comme toutes les autres. En revanche, il y a la salle, évidemment, des audiences, qui est gigantesque, qui appartient aux deux. Et surtout, il y a la salle des séances, à proprement parler, qui est l'antre, si vous voulez, qui est le saint des saints de l'Académie, selon moi. D'abord, parce que la structure révèle, par exemple, chaque académicien, ou quand Dominique Fernandez m'y conduit, c'est émouvant de me dire « je suis là ». Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, cette institution, ce rituel, il a un espace, il est important de le souligner. Et puis, il y a surtout le tableau du cardinal, ça c'est très intéressant, puisque en fait c'est une, Dominique Fernandez en parlera mieux, mais c'est une méditation sur la vanité et la mort aussi. Donc par le détail, il est important de révéler un tout. Voilà, c'est une démarche que j'aime à appliquer, parce que c'est comme ça que vous pouvez entraîner un spectateur, mais pas uniquement pour lui dire « regardez, c'est beau », c'est le sens que vous soulignez. Il y a une façon de conduire le regard, d'accompagner les sensibilités, dirais-je.
Oui, alors ça, notamment, vous multipliez les prises de vue, on voit des gros plans, des détails extrêmement précis, qui, à mon avis, ont même échappé à beaucoup d'académiciens, qui les voient peut-être tous les jours et, à force, les ont totalement oubliés.
Oui, ils sont un peu myopes aussi.
Décidément. Et vous faites également des prises plus générales, et vous êtes alors monté sur les toits, sur le lanterneau, etc. Et là, comment avez-vous fait? Parce que vous êtes là, le c'est premier, très
difficile.
Je crois. Non,
je peux même dire, enfin, je ne citerai pas de nom, mais il y a même des personnes qui vivent dans l'académie, enfin, qui sont très proches, qui ont des fonctions importantes, qui n'étaient jamais montées. Ouais. Parce que, pas par refus, mais d'abord parce que, bon, ils ont dû entendre un jour ou l'autre qu'on pouvait monter, toute architecture est accessible. Ouais. Bon, moi, je vais faire le lien parce que je suis architecte à l'origine, mais surtout, j'y ai retrouvé mes émotions d'antan, puisque quand j'avais 17 ans, mon rêve était de monter sur la coupole de Sainte-Marie-des-Fleurs à Florence. Donc, c'était Brunelleschi. Si vous n'êtes pas monté sur la coupole, on peut le faire à Florence, donc autant ici, évidemment, c'est difficile. Mais donc, j'ai eu envie de restituer ce que représente la construction et la compréhension d'un édifice. Alors, quand vous montez, c'est un vrai dédale, c'est très complexe. Hein. D'ailleurs, il y a des photos,
on le voit dans les photos,
très audacieuses. Enfin, audacieuses. Je voulais restituer cet élan. C'est comme on pénètre dans tous les contreforts, d'abord de l'édifice. Ensuite, on se glisse, on a des échelles, enfin, des corridors plus sombres. On passe d'ailleurs par cette photo qui est une des plus connues de l'horloge.
Oui, que l'on voit.
Je ne sais pas si c'est pas Douaneau, mais enfin, en tout cas, c'est une des photos les plus célèbres où on voit la scène à travers la lampe, l'horloge. Donc ça, c'était bien aussi de pouvoir le montrer avec un angle nouveau. Et puis après, c'est extraordinaire. Vous voyez, vous sentez d'ailleurs physiquement cette jonction entre l'ellipse et le cercle, et plutôt le cercle extérieur et l'ellipse intérieure. Et puis tout à coup, vous avez des escaliers qui sont très, très, très étroits. Et vous arrivez au premier niveau de la coupole. Et ensuite, donc, vous vous hissez par une trappe.
Oui, alors il y a une photo, d'ailleurs, cette petite trappe d'accès au lanterneau, qui est une photo proprement renversante, puisqu'on la voit complètement à la verticale.
En fait, je montre le seul,
le seul accès.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous souleviez, pour aller dans un grenier, une trappe, et que vous accédiez au ciel. Voilà. Ça, c'est très impressionnant. Alors, la photo que moi, dont je suis le plus, enfin, qui, plus, pas fier, mais qui m'a beaucoup ému quand j'ai eu à la faire, c'est le passage entre les deux coupoles, justement, parce que c'est une mise en abîme. C'est la clé. Alors, il faut une observation. On perçoit, on pressent d'emblée qu'il y a on croit à un artifice, mais on pressent qu'il y a une complexité, dirais-je. Mais quand vous êtes entre ces deux coupoles, personne ne pense à y passer, parce que soit c'est le réparateur, soit vous décidez d'aller en haut. Mais on se faufile. Et là, vous avez les vitres de lune qui se reflète dans l'autre, mais avec toute une mise en abîme. On voit aussi un bout de drapeau dans le lointain flou, le drapeau français qui se reflète. Vous voyez, donc on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, mais c'est ça l'esprit d'un lieu.
C'est quasiment impressionniste, cette photo.
Oui, c'est impressionniste parce que d'abord, ce sont des vers anciens aussi, oui. Donc ils n'ont pas la définition qu'on pourrait attendre d'un édifice contemporain, etc., etc. Donc tout parle, tout a du sens parce que c'est un édifice de conservation. C'est un lieu qui reflète de l'extérieur, qui est devenu un symbole à la fois de l'esprit français, mais aussi de la langue et de l'identité française, mais qui existe en tant que telle comme innovation architecturale, comme l'élégance des pilastres. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu très régulièrement à partir du moment où le livre a été décidé. Donc, j'ai couvert une année entière à toutes les saisons. Il y a même des photos sur la neige.
Il y a des photos sur la neige, oui. Voilà, oui.
Quand on a eu toutes les campagnes de neige l'année dernière, enfin, les grandes, je me suis levé aux aurores, j'étais parmi les premiers, c'était magnifique. Mais aussi, par exemple, l'incidence de la lumière sur l'architecture. Elle va se poser sur des lettres en particulier, ou bien sur des chapiteaux, ou bien sur les fugues des cannelures dans les pilastres. Puis il y a des niveaux aussi dans la coupole. Il y a bien une hiérarchie, elle est claire. Il y a un accès, au bout il y a le tombeau de Mazarin. Ensuite vous avez les fauteuils où se tiennent les discours. Ensuite il y a aussi les parties, les vertes et les grises. On voit bien que ce sont pour les académiciens ou les proches. Ensuite il y a le public. Et puis il est très accueillant cet ovale, mais il est très difficile à photographier parce qu'il est... vous savez, très souvent quand vous faites des photographies avec des focales qui veulent tout englober, tout est déformé. Et on n'a pas envie de faire ça avec la coupole de l'académie, justement, puisqu'elle est l'essence même de l'épure, elle est une réflexion profonde sur le jeu des courbes, c'est une idée architecturale. Moi, en tant qu'architecte, je ne peux que la respecter, je n'ai aucune envie de la dénaturer, voilà.
Alors comment faites-vous, justement, pour la
respecter? Eh bien, je me suis couché, j'ai pris le plus grand temps possible, non déformant. Et je me suis mis couché. Bon, j'étais seul, là, vous savez. Enfin, bon, je tiens quand même à rendre hommage à Mathieu Zamponi, qui est l'architecte, enfin, qui est responsable d'architecture et du patrimoine ici, qui a été un guide merveilleux. C'est quelqu'un qui m'a ouvert toutes les portes. Il a fait l'ascension avec moi. Et c'est vrai que j'ai conduit Dominique Fernandez un jour parce qu'il n'avait jamais pensé à se hisser sur les coupoles. Alors, ça, c'est la partie extérieure révélée aussi de l'intérieur. Ouais. Après.
Alors, pardonnez-moi, je vous coupe un tout petit peu. Parce qu'il y a une photo qui est vraiment magnifique, qui est ce reflet du lanterneau de la coupole, donc sur un trottoir de la rue de Seine, après une averse. Alors franchement, c'est fantastique. Ça évoque William Turner, le peintre anglais. Ça évoque à nouveau les impressionnistes, encore une fois. Comment avez-vous eu... C'est un coup de chance? Comment ça se fait?
En fait, je fais tout à bicyclette à
Paris. Parce que c'est magnifique, là.
Moi, je circule uniquement à bicyclette depuis des années, enfin presque depuis toujours, et je suis heureux de cette approche. Et la coupole, pour moi, enfin l'Institut de France, c'est quelque chose qui vibre avec la lumière. Et parfois, je me dis, mais comment peut-on englober? Parce que vous savez qu'il y a un seul angle, vous la voyez, à moins d'être dans une vision frontale, sauf qu'elle est, exposée, à moins que nous soyons en été, toujours à contre-jour. Elle est exposée au nord, la belle façade. Donc il faut attendre vraiment l'été pour qu'elle soit, elle ait une lumière rasante, mais ce n'est pas une façade exposée en pleine lumière que vous puissiez mettre en valeur. Or, il y a un seul axe, c'est l'axe donc, de la, quand vous êtes le long de la Seine en descendant de la rue Bonaparte, et là, tout à coup, il y a juste, on a l'impression que l'architecture a été aussi, enfin, environnante, a été conçue pour cela, on est dans les coulisses d'un théâtre. Et au moment où j'essayais de l'inscrire très précisément dans le champ de vision, comme il n'avait plus, et que le soleil était revenu, eh bien, il y avait juste une flaque. Et dans cette flaque se reflétait uniquement une parcelle de la coupole. Et donc je la traite comme telle, hein, ce n'est pas du tout un artifice, je le répète, mais je fais la mise au point sur l'or qui brille et non pas sur le caniveau ou sur la pierre.
Et aussi, pardon, les bibliothèques.
Voilà, et alors à partir de là, il y a eu, donc, quand on pénètre dans ce lieu, donc on a les cours, l'élégance, on a d'ailleurs deux frontons qui se répondent, on a l'Académie en tant que telle et puis l'Institut de France, et donc c'est un jeu ambigu de symétrie, parce que là aussi pour l'architecte, comment refléter la dissymétrie? Vous avez un édifice qui est le symbole de l'ordre français classique, c'est-à-dire que de l'extérieur, vous pensez que tout est à l'alignement. Or, à peine le contournez-vous, justement, et vous voyez bien que la coupole est complètement décalée, le lieu même. Tout l'Institut de France se trouve sur la gauche. Et d'ailleurs, il y a la Mazarine, il y a énormément d'édifices qu'on n'a pas intégrés puisque nous ne faisons pas partie de l'Académie française. Donc, cette dissymétrie, pour moi, elle est baroque aussi. C'est-à-dire, elle rompt, elle joue sur les apparences, elle souligne la complexité du lieu. Et après, il y a des couloirs dérobés. Vous avez soit l'escalier solennel qui vous conduit à la bibliothèque des académiciens, avec des petites annexes aussi, des salles de lecture. Donc, on va montrer tout ça. Et ensuite, vous avez donc un tout petit escalier magnifique qui conduit à la Mazarine, mais qui peut aussi conduire à la bibliothèque des académiciens. Donc ça, il fallait le restituer, attendre qu'il y ait la bonne lumière. Et pour terminer, au fond, plus vous appréhendez un lieu, plus vous avez envie de le découvrir. Et j'ai voulu terminer par des manuscrits rares.
Oui.
D'abord parce que, en tant que passionné d'égyptologie, depuis toujours, je suis allé en Égypte sur les traces de Flaubert et surtout de Maxime Ducamp. Et j'ai appris que c'est la bibliothèque de l'Académie française qui a les originaux. Vous voyez, donc c'était très émouvant, on m'a sorti, alors j'en montre qu'une évidemment, le but n'est pas de faire un inventaire, mais pour donner envie à ceux qui sont réellement passionnés, aussi bien de par exemple moi qui suis un fou de Piranèse depuis toujours, j'avais pensé à Piranèse à l'Académie. Et je demandais s'ils en avaient, mais ils ont des éditions, des premières éditions des livres d'architecture. Le premier, quand il avait 20 ans, c'est merveilleux, en 1740.
Oui, aussi, le collègue de Léonard de Vinci. Hein.
Voilà, il y a aussi un facsimilé, enfin, l'original, bien sûr, mais on montre qu'un facsimilé.
Bon, parce que...
Voilà, parce que... Précieux, et vous avez les carnets d'études, donc ce sont des donations, ce sont des acquisitions, c'est merveilleux. Il y a aussi des dessins de Bérin, il y a des études du roi Soleil en train de danser, il y a... Voilà, donc, heureusement, et puis il y a surtout des manuscrits étonnants. Il y a des manuscrits, donc des livres dédicacés, mais il y a aussi une correspondance.
Dominique en réparation.
Ah oui, bon, le trouve à la fin d'ailleurs. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, vous, avec ces manuscrits, vous montrez la dimension intellectuelle et patrimoniale finalement de l'Académie française. Et c'est un autre aspect de ce livre, donc, où les photos, encore une fois, je le rappelle, comptent énormément. Vous avez su échapper finalement à la routine de la photo d'architecture, justement grâce à ces manuscrits, mais aussi en intégrant les hommes qui ont fait l'Académie, alors, parce que les vrais, les académiciens vivants n'apparaissent finalement qu'à la toute fin de l'album, mais vous avez réussi, à travers les photographies de tableaux ou de salles de bustes, à montrer un peu ces hommes qui ont fait l'Académie. Donc, c'était une
et ceux qui n'y étaient pas, justement. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la salle des nations, la salle des, pardon, des séances, qui est très intéressante, elle a énormément de bustes, des hommes illustres et des hommes moins connus. Mais par exemple, Dominique Fernandez souligne que le cardinal avait une... Richelieu avait une passion pour Nicolas Poussin. Et il y avait des tableaux qui aujourd'hui sont soit perdus, soit dans d'autres musées, parce que la coupole en elle-même avait, il y avait deux très beaux tableaux, il y a quatre sculptures qui sont toujours là, et Bossuet et Fénelon entre autres, et vous avez donc, il y avait des œuvres magnifiques. Et c'est pour ça, on est allé en quête de ces tableaux. Où sont-ils désormais? Pourquoi ont-ils disparu? Ils ont été... Et tout à coup, vous rendez compte que comme c'est l'Académie aussi des arts, eh bien, il y a un magnifique buste de Poussin. Donc, vous pouvez vous permettre de l'intégrer, même si c'est pas l'Académie française, mais qui reflète tous les... c'est un goût. L'Académie française, pour moi, c'est le style et le goût de l'esprit français.
C'est une
statue entière
de Poussin.
Ouais, statue entière. Mais moi, je la cadre, si vous voulez. En plus, je guette les lumières pendant une année entière, et je suis venu le jour où en calculant tout aussi, parce que je sais très bien.
Comment faites-vous alors?
Ah ben, je veux dire, j'ai une attention particulière à l'orientation. Je suis passionné par l'orientation depuis toujours, en tant qu'architecte d'abord, mais aussi parce que j'ai un sens de l'orientation. C'est que la chose qui m'obsède, je dirais bien, c'est même le matin quand je me lève, c'est quand je vais dans une rue, c'est de voir comment elle est orientée. C'est-à-dire que je sais très bien qu'au bout d'un certain temps...
Heureusement pour moi, parce que dans tous nos voyages, moi j'ai un sens inverse de l'orientation. Quand il faut aller à droite, je vais... Mais c'est systématique. Alors, avec lui, je suis sauvé, sinon je me perds tout de suite.
Mais c'est un exercice aussi, vous savez, on dit tout le temps que c'est un don, pas du tout, c'est une perception, c'est une façon... Bon, moi j'étais passionné des mathématiques quand j'étais adolescent, et toutes mes études ont été construites sur ça, donc la mathématique, c'est aussi une façon de se replacer dans un espace virtuel, mais quand il est réel, eh bien vous avez des repères que peut-être d'autres n'ont pas développés, c'est tout. Mais je crois que c'est capital pour parce que c'est un édifice, une fois de plus, si on revient au début, c'est un édifice secret. Donc vous n'avez pas beaucoup de choix.
Ouais.
Les salles sont étroites. Il y a des lieux qui... C'est des lieux aussi, on ne veut pas restituer que la beauté. Vous l'avez dit, ce sont des lieux qui ont une fonction précise. Et le but est d'associer les deux, c'est-à-dire d'avoir un regard construit sur un lieu qui a un sens et souligner, et donner à voir le sens. Voilà, donner à voir la symbolique, exactement. Ouais.
Alors, malheureusement, le temps nous presse, mais peut-on envisager une exposition de vos photographies, par exemple, à l'Académie des Beaux-Arts?
Ah ben moi je serais...
Je lance l'idée, hein, peut-être.
Bien sûr, oui, parce qu'il n'y a rien...
Organisé.
Non, parce qu'il n'y a rien, je crois, si vous voulez, vous dites, il y a des choses qu'on n'a jamais vues.
Ça vaudrait largement un prix de l'Académie, ça.
On les voit, mais en même temps, on les révèle, voilà. Je crois que c'est le principe même de toute démarche photographique, c'est de donner à... Enfin, d'inviter à aller au-delà des apparences. C'est comme un texte. Vous pouvez tellement facilement lire un texte au premier degré, mais si vous prenez le temps de l'analyser, ou enfin, j'aime pas le mot d'analyser ou même d'exégèse, parce que ça enferme
de
le texte.
De comprendre peut-être même.
D'entrer dedans, d'entrer dedans avec la sensibilité, et puis de susciter des expériences sensibles. Et la photographie, c'est ça pour les autres. Et un texte, c'est pareil. D'un seul coup, quelqu'un va vous donner, mettre en exergue une pensée du texte, quelque chose qui vous donne à voir le texte ou à entendre le texte différemment.
Bon, eh bien écoutez, Ferrante Ferranti, sur cette union de la forme et du fond, je vais saluer les auditeurs de Canal Academy, car cette émission donc touche à sa fin. Je remercie donc Dominique Fernandez de l'Académie française et Ferrante Ferranti, photographe et auteur de l'ouvrage L'Académie française, paru aux éditions Philippe Ray, d'avoir bien voulu y participer, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci. Thank you.